non. Oui.
Ça va? Micro? J'aurais plusieurs questions, mais je peux parler assez fort. J'aurais plusieurs questions, mais je vais me contenter d'une seule. C'est le lien qui a été fait entre la dimension constitutionnelle. Comment on peut. Je n'arrive pas à saisir qu'il puisse avoir un lien entre un ouvrage et qui soit pornographique ou autrement, et la constitution.
C'est qu'en fait, on a considéré que c'est en train de contravention avec l'article 2B de la Charte sur les droits et libertés qui vise la liberté d'expression. Donc la Charte a une valeur plus grande que la loi. Cet élément-là de l'article de loi tel qu'il avait été rédigé en 2005 était trop large. Mais il y a deux éléments de la loi qui ont été déclarés inconstitutionnels par le juge. La définition que je vous ai lue, et puis aussi le fait qu'on a prévu un but artistique, un but légitime lié aux arts, qui est un moyen de défense et qui permet d'éviter de poursuivre normalement des œuvres littéraires. Mais en 2005, quand l'article a été rédigé, ils avaient ajouté à ce but légitime, bon, si vous avez prouvé qu'il y a un but légitime lié aux arts, il faut encore prouver que le texte ne comporte pas un risque indu. Donc, comme dirait ma mère, là, on avait mis la ceinture et les bretelles, c'est-à-dire deux mesures de protection pour vraiment s'assurer de pouvoir quand même poursuivre certains textes, y compris des textes artistiques. Et là encore, le juge a dit, écoutez, si on prévoit un moyen de défense, c'est parce qu'on considère qu'il y a un risque, mais que la valeur fondamentale à défendre, c'est-à-dire la liberté artistique, est tellement important que comme société, on va accepter de courir ce risque-là. Donc le risque indu, c'est la bretelle de trop. Hein. Donc ces deux aspects-là ont été déclarés inconstitutionnels, mais cela dit, pour le reste du Canada, il reste valide.
Autre question? Oui, Gilbert.
Bon, on dirait qu'il y a une réaction différente du côté du Canada anglais. Du côté du Canada français par rapport à la liberté académique. Est-ce que vous constatez quelque chose de semblable dans votre étude, ou si c'est la même chose?
Ben le cas de Jonathan Duval est patent de cette division entre un communautarisme de prédominance des identités, des défenses des identités, et d'autre part, d'un universalisme, je dirais, qui relève davantage du milieu francophone des universités québécoises. Le livre dont je parlais tantôt, Liberté malmenée, qui fait l'état de ces questions-là, pose exactement la question que vous soulevez, deux visions, l'une basée davantage sur les particularismes. Et c'est celle-ci qui semble avoir, dans un premier temps, triomphé, si on peut dire, avec l'époque de l'Université de Toronto. Donc, vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a quand même deux visions différentes de cette question-là. Et, ma foi, parfois, elle est utile.
Est-ce que je peux me permettre de compléter là-dessus un tout petit point? Le recteur de l'Université d'Ottawa, qui a pris la sanction contre la professeure lieutenant Duval, est un ancien président de la Commission des droits de la personne du Québec. Alors, quand on parle des deux particularismes, pour une fois, c'est un Québécois qui aurait été converti au particularisme. Je crois que c'est une précision importante parce que c'était d'autant plus choquant ce qui s'est passé dans ces circonstances-là. Autrement dit, une voix suffisait à démolir un individu.
On dit qu'il convertit son église.
Vous avez raison.
Je vais ajouter là-dessus, tous les cas qu'elles ont Pierre, si vous regardez, elles ont lieu dans des universités, soit en Ontario, soit dans des universités anglophones au Québec. McGill, Concordia, et tu as parlé de Concordia.
Oh oui.
Et puis il y a aussi, si vous regardez la décision du CRTC, Pierre vous a dit d'aller la lire, elle est très intéressante, vraiment. Et le CRTC fonctionne avec un comité qui est représentatif des différentes provinces. Et puis c'est en fonction du nombre de l'importance de la population. Donc il y a un commissaire pour le Québec, un commissaire pour l'Ontario, et puis ensuite il y a des commissaires qui se partagent plusieurs provinces. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Puis si vous regardez la décision, c'est une décision majoritaire, mais il y a deux commissaires qui sont dissidentes, et il y a celle du Québec. Et la dernière fois que je suis allée regarder la composition de ce comité du CRTC, eh bien la commissaire du Québec n'avait pas été remplacée, donc au CRTC le siège était toujours vacant. Alors je pense qu'en effet il y a un conflit très clairement culturel entre, je dirais, francophones et anglophones sur ces questions.
Question. Jean, vous en avez posé une, je ne sais pas
si
Je m'excuse parce que j'en ai parlé. Vous serez le deuxième, oui.
Lorsque j'étais étudiant dans les années 50 à Laval, il était un livre qui était mis à l'index par l'Église, était un succès de librairie qui était recherché parce que il y avait un réseau de distribution plus ou moins en cachette, et c'était vraiment presque, je dirais, un succès de librairie assuré. Mais probablement que d'autres personnes ont connu ça, mais...
Oui, non,
c'est juste un petit peu de ça. C'est le... juste très bien. C'est le grand paradoxe de la censure, il faut montrer pour cacher.
Je peux poser trois questions. Évidemment, quand c'est blanc, c'est blanc, quand c'est noir, c'est noir, puis c'est gris, c'est complexe. Mais je ne veux pas ouvrir tout un nouveau plan, mais je me demandais qu'est-ce que vous avez pensé de l'œuvre de Gabriel Massenet.
Mais c'est une excellente question. Je vous dirais que... alors, Gabriel Matzneff, c'est un écrivain français qui n'a jamais caché sa pédophilie, même s'il l'appelle autrement. Pédoprédateur qui a fait plusieurs victimes avec la complicité, je dirais, du milieu culturel français. Et très récemment, alors qu'il était encore un écrivain subventionné par l'État, et ils sont très peu nombreux, hein, une de ses anciennes victimes, Vanessa Spongora, a publié un texte qui s'appelle Le consentement. Et dans la maison d'édition même où il avait fait son œuvre, et ce texte-là a été un véritable phénomène de société en France, à tel point que le législateur a réouvert le dossier du consentement en matière de sexualité et de majorité sexuelle, donc ce qui est une vieille question. Donc Gabriel Matzneff, on ne pouvait plus le poursuivre pour ses écrits. Il y en a un qui s'appelle « Les moins de 16 ans », ça vous donne une idée du programme. Et puis, il raconte ses voyages sexuels à l'étranger, où il viole de jeunes enfants, enfin, c'était vraiment très, très connu. Et on dit qu'il a bénéficié d'une certaine protection parce que c'était un écrivain. Et que en France, le statut de l'écrivain est très, très certainement, on appelle la France la nation littéraire, c'est pas pour rien, hein, c'est fait partie vraiment de la culture française. Je n'ai jamais lu ces textes, et donc je ne peux pas vous en parler. J'en ai lu des extraits qui sont parus dans les journaux. Je me souviens, je vous dirais que j'ai trouvé très pénible la lecture de Hansel et Gretel. J'ai essayé une fois de lire les textes de Gabriel Matzneff, parce que c'est mon travail, alors il faut bien que j'aille essayer de regarder. Mais c'était en plein dans les suites de l'affaire médiatique, parce qu'il a été quand même poursuivi pour un discours récent dans lequel il disait que ce n'était pas si grave, etc. Donc il faisait une apologie de ces actes-là. Donc il était quand même poursuivi, et puis des journalistes me demandaient mon avis. Je me suis dit, il faut que j'aille le lire. Mais il était retiré des bibliothèques. La BALQ l'avait retiré de ses rayonnages. Donc il a réapparu depuis, mais vous voyez que ça pose des questions quand même très compliquées. De la même manière, j'ai été interrogée par des journalistes autour de l'affaire Hensel et Gretel, le livre était interdit, je ne pouvais pas le lire. Et j'ai écrit un article à l'époque en disant qu'il y avait un extrait de quelques lignes qui décrivait un viol d'enfant, et qu'un extrait sur 250 pages, c'était quand même très étonnant, mais je ne savais pas, je ne pouvais pas avoir accès au texte. Alors même pour des ouvrages aussi difficiles que ça, donc je pense que ça inclurait, pour répondre à votre question, les textes de Gabriel Matzneff, j'aurais quand même tendance à penser qu'il est bon que les citoyens et les citoyennes puissent se faire une idée par eux-mêmes de ce dont il est question. J'ai pas couru après les livres de Gabriel Matzneff, parce que ça fait un peu de temps que j'aurais pu aller les lire, puis je l'ai pas fait. Mais je pense que ça aurait été bien quand même que je puisse aller voir sur pièce ce dont il était question. Et c'est quand même très très compliqué, parce que c'est comme pour la question du racisme, hein. Les discours de haine sont interdits. Vous pouvez écrire un roman à thèse qui fait passer un discours haineux. Alors, comment on en juge? Qu'est-ce qui est licite et illicite? Il n'y a pas de moyen de défense lié à l'art pour ce qui est des discours haineux. C'est quand même des questions extrêmement compliquées et qu'on n'a pas réglées en créant une exception pour la fiction, à mon avis.
Il y avait d'autres mains levées tout à l'heure. Oui, Jean.
Oui, le prof de politique en moi ressurgit. Je vous pose une question embêtante, je crois. C'est celle-ci. Quand on regarde la diapositive où on avait une série d'ouvrages jusqu'à Tintin en Amérique, ça vient essentiellement d'une critique antiraciste, anticoloniale, et dans certains cas, féministe. Dans les trois cas, si on cherche le dénominateur commun de ces trois approches, antiraciste, anticolonialiste et un certain féminisme, ça vient du champ gauche. Ça vient de la gauche. Ça vient pas de la droite. Alors qu'avant, la censure venait de la droite. Là, il y a comme une inversion. Donc, ma question, j'ai deux questions en fait. Est-ce que vous constatez cette espèce de prédominance, pas d'exclusivité, mais de prédominance des critiques qui viennent de la gauche, et comment l'expliquer?
Je vais organiser une deuxième conférence, il n'y a aucun doute là-dessus.
Les appels à la censure, c'est un outil politique depuis bien longtemps. Je ne suis pas certaine que la censure de gauche soit si neuve. Elle va porter probablement sur des sujets différents. Cela dit, si on prend aussi la censure de droite, son histoire n'est pas si évidente que ça. Moi, j'aurais tendance à toujours essayer de compliquer un petit peu les lignes de partage, mais penser par exemple à l'histoire de la droite et de l'extrême droite, surtout, je connais mieux l'histoire française à cet égard, mais en matière de censure ou de liberté d'expression, il y a deux courants très différents. L'intégrisme catholique, qui a toujours pourchassé les productions culturelles en lien avec la sexualité. Ça a été particulièrement fort dans les années 60 en France autour du cinéma. Ils continuent aujourd'hui, et ils sont très organisés. Il y a beaucoup d'affaires en France, et cette censure-là, elle vient de la droite et de l'extrême droite. Mais il y a aussi eu une revendication traditionnelle de l'extrême droite pour la liberté d'expression, à contrario, et notamment pour aborder des sujets qui fâchent, dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Le déplacement sur le spectre politique de l'argument de la liberté d'expression est vraiment très complexe. Et puis pour prendre un autre champ, et je pense qu'ici on est quand même influencé par les deux, qui est le champ états-unien. Il y a aux États-Unis, on en parlait tout à l'heure aussi dans le monde anglophone nord-américain, énormément de demandes de censure qui émanent des militants de gauche, mais il y en a aussi énormément, y compris des champs disciplinaires qui sont carrément interdits aux États-Unis. Et ça a été un combat de la droite culturelle trumpiste qui s'est saisie aussi de cette question-là. Donc moi, je vous dirais que de manière générale, il y a une instrumentalisation politique de la liberté d'expression et de la liberté de création avec des coups de balancier et des tirs groupés quand même, mais pas toujours sur les mêmes heures et pas pour les mêmes motifs.
Tu savais que tu soulevais une question difficile. Ça me rappelait un discours d'Albert Camus dans les années 56-57 qui s'adressait à son public. Il disait bien sûr, je suis de la gauche, fin de pause, l'ancienne gauche. Parce qu'évidemment, à l'époque, il était coincé avec la question du communisme, ça. Puis là, il se retrouvait finalement, sans avoir bougé, à droite, pratiquement. Alors, c'est intéressant de voir que sans bouger, on bouge. C'est assez fascinant. Bien évidemment, tu as raison de dire que ces mouvements viennent d'une certaine gauche, qui, sans aucun doute, s'éloigne de la critical race theory aux États-Unis, qui donc a pris la défense des minorités, mais qui a bout de piste pour permettre à ces minorités d'exprimer, de se sortir de l'oppression et d'exprimer leur propre liberté, va en arriver à donner d'autres libertés. C'est un peu le paradoxe du côté extrême, pour moi, en tout cas, de cette nouvelle gauche qui n'hésite pas à opprimer la liberté au profit d'une autre liberté. Mais la question que tu soulèves est centrale, ça, c'est clair. Excuse-moi de dire, je te remercie parce qu'il y a une longue réflexion de l'université.
Une dernière petite question pour permettre, après ça, 10 minutes de pause avant le repas. Oui, monsieur.
Oui, j'aimerais ouvrir un autre champ, le numérique, parce que dans le domaine du numérique, on voit bien plus d'horreur, enfin, d'atteinte à tout ce que vous voulez, là, que par les écrits, etc., notamment pornographique et autres. Et comment se passe la liberté d'expression, de création dans le numérique?
C'est tout le problème. Et dans l'affaire de la poursuite d'Ivan Godbout, moi je trouvais très injuste que ce soit lui qui soit poursuivi. Et à mon sens, il était d'une certaine manière puni parce qu'il publiait chez un éditeur au lieu de publier en ligne où les discours sont beaucoup plus difficiles à poursuivre. Pour vous donner deux anecdotes, mais qui à mon avis sont quand même disent quelque chose. J'ai une de mes étudiantes qui travaille sur la fanfiction. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est quand on reprend un univers comme Harry Potter, qui est très connu, puis les lecteurs s'emparent de cet univers-là, puis écrivent une autre fiction dessus. Donc c'est une fiction de fans, donc des lecteurs qui réécrivent des textes. Donc il y a des sites d'échange de fanfiction. C'est extrêmement populaire. Il y a des millions de personnes qui écrivent sur ces plateformes-là. Et je vous dirais que les pratiques littéraires aujourd'hui, c'est ça, 80%. Donc ce qu'on voit et ce qui se publie, c'est une partie. Et c'est de la littérature. Or, elle travaillait sur la fanfiction pornographique, qui est un phénomène très, très répandu. Et elle a été obligée d'écarter de son corpus plusieurs textes parce qu'ils contenaient des scènes pédopornographiques. Et je disais, c'est illégal, puis je ne veux même pas que tu me te donnes les liens, je n'ai même pas le droit d'accéder à ça normalement. Ces plateformes-là, deuxième anecdote, elles sont souvent liées à d'autres pays que le Canada. Alors, comment on applique l'article de loi ben on applique sur les lecteurs. Et on ne peut pas aller pour chasser les gestionnaires, non, les gestionnaires, oui, les diffuseurs, Ce qui crée un autre problème, parce que ces sites-là, ils sont légion, mais si tout à coup le diffuseur ou le créateur du site est canadien, lui, il va être poursuivi. Donc il y a constamment un deux poids, deux mesures qui est très compliqué à gérer. Et je vous dirais que dans la décision pour, de Godbout, qui est vraiment une décision très intéressante, et le juge, je peux vous dire, c'est un lecteur, c'est une évidence. Je me demande d'ailleurs si sa décision aurait été celle-là s'il n'avait pas été un lecteur. Il était en train de se dire, il va falloir que je sorte à l'hébert de ma bibliothèque, et puis ça, et puis ça. Mais le juge, donc, est un lecteur. De toute évidence, quand même, c'est un lecteur traditionnel. Et cette réalité-là de la diffusion sur Internet, il n'avait pas à l'esprit, il n'écrit pas une ligne là-dessus. Mais moi, je trouve que c'est le problème avec cette loi-là. C'est son applicabilité.
Alors, avant que vous vouliez compléter, non ? Je propose de remercier encore bien vivement. Conférencier, c'est qu'il nous laisse partir avec plein de questions, qui nous oblige à jeter un regard critique sur la société dans laquelle nous vivons. Merci. Merci.